sur les stands de restauration avec les crêpes et les fouets. On va arriver au verger.
Donc là, on est au festival de l'Arbre Bavard. C'est la 3e édition.
Super bar. On boit local. C'est un bois local. Et puis le verger là qui va s'animer dans la journée. C'est l'endroit où on se pose, on boit un verre. Et on se fait deux spectacles, quoi. Et après, ici, c'est la Cerisée. Donc on y accède par ici. Et les autres, on y accède par le grand champ, là.
Cette fraîcheur.
Oui. Et puis, c'est vrai que le lieu est... est magnifique, c'est formidablement décoré. Et puis voilà, je crois que les parents, les propriétaires sont aussi des gens amoureux de la nature et des militants qui ont défendu l'environnement, des activistes aussi. Et voilà, et en fait, les chiens ne font pas des chats.
Tu sembles les connaître.
Ouais. Non, mais c'est très agréable.
C'est un lieu très agréable. Là, on est au verger, on est quand même sous les arbres fruitiers. Il y a des banderoles de tissus trop belles partout. Il y a des pots le parfait remplis d'espèces de petites surprises dont on ne sait pas si on peut se servir pour jouer au dé ou s'éclairer parce qu'il y a des lampes torches. Voilà, c'est tout coloré. Qu'est-ce que c'est?
Et puis, il y a un départ pour la balade comptée qui...
Là, on entend la voix de Manon.
Ouais, c'est ça. C'est la 3e édition du festival cette année. Et... pour l'instant, ça va être un super week-end.
Manon, qui est chargée de communication pour le festival.
Alors déjà, le festival, nous, on l'a créé en 2020 et où on s'est dit qu'on manquait cruellement d'endroits, d'espaces de représentation pour les jeunes artistes parce que certains d'entre nous, à l'intérieur de l'Orga, on est aussi une casquette d'artiste. Voilà, donc on connaît bien ces problématiques-là. Au fur et à mesure... des réflexions, en fait, cette idée de... Au début, c'était juste jouer des spectacles en plein air. Et puis, on s'est dit, organisons un festival, faisons un appel à projet, ouvrons au public, etc. Et au fur et à mesure des années, on se dit que ce projet, c'est super beau qu'il existe. Ça crée vraiment des choses, des très belles choses du côté du public, du côté des artistes, même des bénévoles qui viennent nous aider. Et oui, nous, on est tous et toutes, soit de la Mayenne, de la Sarthe ou de l'Orne, et on s'est rencontrés soit un peu au lycée Douanier-Rousseau à Laval, et aussi au conservatoire du Mans pendant des études de théâtre. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on apprend tous et toutes énormément avec ce festival, avec cette organisation, parce qu'au début, c'était vraiment une petite idée qui a germé comme ça, on s'est mis sur des pôles, chacun chacune, et au final, on s'améliore et puis on développe aussi des compétences qu'on n'aurait pas développées autrement, parce qu'on est un peu obligé de faire et tout le monde découvre, on tâtonne et c'est vraiment super plaisant, c'est génial. Et on apprend aussi beaucoup à travailler en groupe et à travailler en collectif et on a beaucoup de discussions par rapport à ça, comment on travaille, comment on fait des choix, etc. Et enfin, le collectif, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et ouais, on s'attache à travailler là-dessus parce que ça nous paraît important. On a une équipe de 8 membres permanents qui sont aussi les membres de l'organisation et du collectif de programmation, quoi. Donc on décide de toute la programmation à 8 et des décisions de coordination générale. Et sinon, on s'accompagne quand même d'une équipe augmentée, disons, qui va jusqu'à, je pense, 25 personnes. Où là, il y a des personnes qui nous accompagnent sur toute l'offre de restauration, sur la coordination, sur la scénographie. Et après, en plus de ça, on a grandi encore pendant la semaine de prépa avec tous les bénévoles qui viennent nous rejoindre et sur le week-end aussi. Ce lieu-là, c'est un lieu privé qu'on nous prête, qui est un cadre magnifique et vraiment idéal parce qu'il y a plein de petits endroits un peu recoins, intimistes, où on peut mettre les scènes, donc c'est chouette. Et en fait, on s'est implanté là parce que c'est le terrain des parents d'une des organisatrices. Donc c'était idéal. Et en fait, pour l'instant, il se prête bien. Peut-être qu'un jour, on sera un peu à l'étroit, mais là, ça reflète bien un peu l'ambiance qu'on veut donner et puis le cadre chaleureux, quoi, et à taille humaine du festival. On a trouvé le nom de l'Arbre Bavard. Ce nom-là, il est venu... En fait, quand on cherchait le nom du festival, on avait plein d'idées, etc. Et à un moment, pour s'inspirer, on allait faire une balade dans les chemins creux, en fait, au niveau où on passe la balade comptée, là, actuelle du festival. Et notre directeur technique, qui s'appelle Yvan, et qui, dans la vie, fait du son, avait cette idée de... faire parler les arbres, faire une sorte de création sonore, voilà, dans la balade. Et on s'est dit, ah, ça pourrait s'appeler l'arbre bavard. Et on a tellement aimé l'idée que c'est devenu carrément le nom du festival.
Alors, c'est un jeune festival avec une jeune équipe, avec des jeunes artistes. Tout est un peu émergent.
On voit bien que à chaque fois, toutes les compagnies qu'on programme, ça crée des beaux groupes, des belles énergies de groupe et beaucoup de partage et de rencontres qui se font. Et on sent bien que c'est un réel besoin de créer ce genre d'espace où on accueille des artistes émergents et émergentes et qu'ils ont besoin de soutien, quoi. Donc faut qu'on arrive à leur donner encore plus de force. Quand on programme, nous, on passe par un appel à projet. Et c'est plus pratique pour nous et aussi pour nous adresser à des artistes émergents aussi qui n'ont pas forcément l'occasion de faire des tournées flamboyantes dans toute la France, donc on ne peut pas forcément voir tout. Et donc on leur demande de nous envoyer des dossiers et tout, et là cette année on a reçu vraiment énormément de propositions. Donc déjà ça veut dire que les gens ont besoin de jouer et envie aussi de se retrouver et de partager leur art dans des espaces ouverts comme ça, c'est chouette. Mais on adorerait que ça devienne un projet solide et professionnel. C'est déjà un projet qui est pas mal abouti, et d'année en année on voit l'évolution aussi du projet, donc ça fait trop du bien. Et on se dit ça peut être vraiment super dans 10 ans, qu'on sera super rodé, incroyable. Mais ouais, l'idée c'est d'en faire un espace de partage et de fête à une échelle locale, quoi. Et en même temps, à une plus grande échelle nationale, c'est que l'Arbre Bavard soit aussi une véritable plateforme de création et d'émergence sur la scène théâtrale et en tout cas dans le milieu des arts vivants.
Qui vous soutient dans ce projet ?
Alors, on est soutenu à la fois par des partenaires territoriaux, la mairie, les collectivités locales, départements, régions, etc. Et ça commence à... Enfin, on sent qu'ils ont aussi envie de nous soutenir d'année en année. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir cette confiance-là. Et puis, on a aussi quelques partenaires privés aussi, qui nous accompagne et avec qui on crée des fidélités, donc c'est assez chouette aussi. Mais c'est sûr que dans ce genre de projet bénévole, il y a quand même un fort enjeu financier, parce que quand on veut créer un événement de qualité, il faut quand même un budget. Et comme notre objectif principal, c'est de mettre en avant le travail des jeunes créateurs et créatrices, et faut aussi rémunérer leur travail, parce qu'il y a aussi beaucoup d'espaces de jeunes créations où les gens jouent de façon bénévole. C'est une façon de faire, et en fait, on est habitué aussi en tant qu'artiste, c'est une sorte de passage obligatoire de ne pas rémunérer son travail, mais du coup, c'est un peu le point d'honneur qu'on met, et puis ça fait beaucoup de personnes.
Il y a beaucoup de jeunesse, j'ai l'impression, dans ce collectif. Est-ce que au niveau du public, on retrouve aussi une tranche d'âge plutôt de jeunes?
Ce qui est chouette, c'est qu'on a un peu de tout. On a un public assez homogène, mais c'est vrai qu'on a une grosse partie du public qui est assez jeune. Et ça, on est assez fiers de ça, parce que généralement, on dit les gens qui vont au théâtre, c'est un peu les personnes qui sont plus âgées ou des personnes retraitées. Il y a, dans le jargon, parfois, on dit c'est les têtes blanches, parce que beaucoup de cheveux blancs. Mais donc là, on est super content que cet événement-là attire aussi des jeunes spectateurs et des jeunes spectatrices. Mais c'est aussi un événement où il y a un cadre très chaleureux, très familial. Donc il y a aussi pas mal de familles, d'habitants. Donc on croise tous les âges, tous les publics ici. L'année dernière, on a reçu 500 personnes par jour. C'était notre jauge, donc c'était parfait. c'était ce qu'on attendait. Et cette année, on s'est dit qu'on pouvait ouvrir un peu plus. Donc ça sera sans doute entre 500, 600, 700, on peut monter un peu. On verra on verra si le week-end est complet ou pas. Eh ben, merci beaucoup de parler de l'événement, parce que c'est important aussi.
Jeanne, je te connais comme comédienne, mais aujourd'hui, tu n'es pas une jeune artiste émergente. Toi, tu es déjà un peu de bouteille. Et donc, pourquoi tu es là aujourd'hui ?
Eh bien, parce que j'ai été émue il y a 2 ans par cette initiative. C'est ça, hein, le festival a 2 ans. Enfin, c'est sa troisième année. Voilà, c'est sa troisième année. Et voilà, j'étais venue par hasard et je me suis sentie bien tout de suite. Et je me suis dit, mais encourageons ces jeunes gens dans leur initiative. Et puis, bah, parce que comme eux, moi, je suis mordue de théâtre et la création jeune, moins jeune, de tout âge, m'intéresse.
Tu es là pour la compagnie Kinlaos, c'est ça ? Kinlaos, voilà, je l'avais mal dit, pour un spectacle de danse qui est intitulé Viril, c'est bien ça ?
C'est bien ça, ouais.
Donc, moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, c'est un projet qui parle du genre, je ne me trompe pas, du genre féminin et du genre masculin, hein, viril, pas... V-I-R-I-L-S, mais bien V-I-R-I-L-E-S, donc viril au féminin. Comment est née cette envie de parler de cet attribut viril que peuvent avoir les femmes ?
Alors justement, ça partait d'un livre que j'ai lu par rapport aux masculins et aux hommes et au fait qu'on aimerait que ces hommes s'éloignent de leur virilité, etc. Et du coup, cette pièce, elle dénonce et à la fois, elle donne la liberté à l'homme d'être qui il a envie d'être et à la fois... aux danseuses qui sont du coup des femmes, la chance et le droit d'être virile à leur tour et du coup trouver l'équilibre de la légèreté chez l'homme et de la virilité chez la femme et de mélanger un peu les genres.
Alors ce qui est intéressant je trouve c'est souvent quand on parle de danse, souvent mais ça change quand même pas mal, mais la danse c'est souvent attribué au féminin, on reste sur des choses gracieuses, sur de la finesse, enfin en tout cas il y a un côté qui est très associé à la féminité. Il y a de plus en plus d'hommes danseurs, mais pas tant que ça. Et là, donc, cette discipline associée avec cette thématique, c'est vraiment une manière un petit peu de provoquer et de détourner la danse de la représentation la plus générale qu'on en a.
Alors provoquer, oui, échanger un peu les énergies au niveau de la danse de la femme et y mettre plus de force et de puissance, et à la fois aussi donner un message positif et plein d'espoir sur le fait que les hommes peuvent être complètement aussi sensibles qu'une femme et vice versa chez la femme qui a le droit d'être moins sensible et d'être plus dans la force. Donc ça dénonce, ça attaque, mais à la fois c'est aussi un beau message d'espoir et ça conseille d'aller vers un autre chemin aussi.
Alors les danseuses, on les voit un peu, effectivement, il y a une puissance des corps dans ce spectacle, au niveau des hanches, au niveau des bras, au niveau des jambes. C'est surprenant et en même temps pas tant que ça. Hein, on sait que nous les femmes qu'on est puissantes. Du coup, dans la chorégraphie, dans les gestes, quelles sont tes inspirations artistiques pour cette mise en scène, ce spectacle?
Alors moi justement, j'essaye d'être beaucoup dans l'observation des hommes dans la rue que je croise, les personnes que j'ai pu rencontrer, etc. Évidemment, on n'invente pas les manières dans lesquelles on se comporte. On est né avec des exemples, etc. Donc les hommes s'adaptent à ce qu'ils voient, à leur père, à leur famille masculine autour. Et du coup, je cherche l'inspiration dans ça, dans des attitudes physiques, où du coup mes danseuses vont aller chercher dans ça, dans des contractions, dans des mentons plus bas, dans des choses musculairement plus fortes. Et du coup, aller chercher moins de légèreté. Et essayer de danser comme si c'était un homme qui dansait sur scène. Donc au niveau du corps sur scène, le but pour moi, c'est que le public oublie que c'est des femmes qui dansent et le costume joue aussi.
Oui, j'ai vu que les costumes, c'était volontairement des costumes genrés. Je dis le mot parce que c'est pantalon de costume et chemise blanche. Donc c'est genré, hein, ça affiche du masculin.
Oui, le but à la base, c'est que mes 5 personnages soient des hommes et que le message vraiment dans l'histoire soit des hommes qui se délient de ce conformisme. Mais par contre, en tant qu'artiste, mes danseuses sont des femmes et sont dans leur énergie virile. Donc on a l'histoire de base qui sont des hommes, mais à l'extérieur des artistes qui sont femmes et qui amènent un autre message. Pardon. On a un double message à travers la pièce.
Alors... J'ai envie de dire, parce que du coup, je me disais, bah oui, on a tous, nous, les femmes, notre côté masculin, notre côté viril, on le sait. Peut-être les hommes l'ignorent. Enfin, certains l'ignorent encore. Chaque homme peut avoir aussi son côté, alors on va dire sensible, féminin, mais en fait, ce dont parle peut-être ce spectacle, c'est un spectacle sur le genre, mais juste peut-être sur le genre humain.
Exactement, j'aime beaucoup cette phrase. Ouais, en fait, c'est pour ça que dans mon dossier aussi, j'ai écrit que le but était de créer un genre qui n'existe pas. À la fois, maintenant, on n'a plus des genres binaires, on est quand même sur des gens qui se qualifient autrement parfois. Et je trouve ça beau parce que du coup, chacun a la liberté de se qualifier comme lui se sent ou elle se sent. Et du coup, oui, pour moi, là, c'est plus un genre humain et la liberté de piocher dans chaque humain ce qu'on y trouve, et que ce soit puissance, innocence, faiblesse, naïveté, légèreté, enfin, tous les adjectifs possibles, quoi. On peut juste se construire avec ce qu'on veut, quoi.
تطقطمس ايديني زماني لغايب عالجرى والمطعم
femmes puissantes, il y a des hommes doux, il y a un peu de tout en fait, on peut choisir d'être qui on est et aujourd'hui on a la liberté, en tout cas cet espace d'expression, et c'est ça que tu proposes avec ce spectacle. Comment tu as choisi la musique pour illustrer et pour accompagner les mouvements des danseuses ou pour inspirer les mouvements des danseuses viriles?
Alors moi je suis partie de coups de cœur musicaux à la base, le climax entre guillemets de ma pièce, donc c'est-à-dire le moment le plus viril, c'est une musique plus dure où il y a beaucoup d'instruments, on n'est pas sûr de la voix sur ce moment-là, c'est du rythme assez puissant, et sur les moments un peu plus légers, les moments où on dénonce un peu plus la légèreté, enfin on défend plus la légèreté, on est sur des musiques plus légères où l'instru est plus basse, et les moments de voix aussi, j'ai pris des voix d'hommes parce que du coup ça m'inspire plus le masculin. Et les voix de femmes m'ont ressorti un peu du sujet parce que c'est quand même dur de créer du masculin sur du féminin, donc j'essaye de, que la seule chose féminine dans cette pièce soit mes danseuses et que le reste soit vraiment complètement masculin. Voilà, j'ai fonctionné au coup de cœur sur cette pièce et aussi aux transitions, parce que c'est difficile de relier certaines musiques qui vont pas du tout ensemble, et du coup j'ai essayé de faire un beau mélange de plusieurs choses différentes et que ça fasse un beau melting pot, quoi.
Et du coup, là, cette pièce, donc là, on est sur un festival d'artistes émergents. Tu es une jeune artiste. Quel âge tu as ?
J'ai 23 ans.
Une jeune artiste, donc. Mais là, c'est une pièce de danse qui, du coup, va être jouée ici. Est-ce que tu as d'autres projets de création ou est-ce que tu as une actualité de tournée pour l'été ? Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour vous après cette compagnie ?
Alors nous, c'est la première scène qu'on a avec ces 30 minutes. On a déjà fait 3-4 scènes sur Paris, en région parisienne, pour la version 10 minutes. Et du coup, là, on a ce festival-là et on attend une scène en novembre à Hyères, donc dans le sud, pour un festival. Et l'année prochaine, on espère pouvoir se pencher vers plein de festivals d'été comme ça. Mais pour l'instant, voilà, on vient de boucler la version de 30 minutes il y a 2 semaines. Et du coup, on essaye, avec cet objectif-là, de prévoir une captation vidéo pour l'envoyer à un maximum d'endroits et pouvoir tourner en région parisienne et en Île-de-France. Et on croise les doigts. C'est le début pour l'instant pour nous. Bah, j'ai envie de dire aux personnes qui viennent ou qui viendront plus tard, juste prenez le message comme vous l'entendez. Chacun en fait son histoire. Et c'est toujours un plaisir pour moi de communiquer avec les gens. Donc merci d'être là en tout cas. Et merci pour cet échange. C'est toujours agréable.
Merci Alizée. Je suis surprise, moi, je disais ça tout à l'heure à Manon, par la jeunesse de l'équipe, la jeunesse des artistes qui sont programmés et la jeunesse des festivaliers et des bénévoles. Ça fait du bien.
Oui, ça fait complètement, ouais, c'est ça. Et de voir que, bien sûr, on a un amour du théâtre en Mayenne, mais pour ce répertoire-là, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'intérêt. Et vraiment, bravo aux organisateurs, aux jeunes organisateurs, là, de nous communiquer ça. On a le Festival des Nuits de la Mayenne qui est sur un autre répertoire, on a les scènes, on est déjà bien servi, mais là encore ça apporte une autre offre et bah voilà, c'était vraiment nécessaire et ils ont eu bien raison de prendre le créneau.
Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les allaitent, c'est trop des putes. Les filles qui enlèvent leurs culottes devant leur gynéco, oh, c'est trop des putes. Les filles qui sont à poil dans leur douche, c'est trop des putes. Toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, toutes des putains, à vous! C'est toutes des putes, toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes.
Donc la compagnie, elle s'appelle Il fait belle. Mais pourquoi ce nom?
Parce que je voulais quelque chose en lien avec le soleil et que il fait beau. C'est au masculin et j'ai jamais compris pourquoi c'était au masculin. Donc je me suis dit, il fait belle. Et en plus, ça fait un peu, il fait belle compagnie, même si c'est un peu en anglais que ça veut dire quelque chose. Bah, il fait belle compagnie, j'aimais bien l'idée qu'il faisait belle dans la compagnie.
Donc un beau féminin. Et le spectacle, l'origine du monde. L'origine de ce spectacle, donc, si j'ai bien compris, c'est une BD.
La BD, l'origine du monde de Liv Strömquist, c'est une BD qui parle du sexe féminin et de comment, depuis des siècles, des penseurs, des artistes, des hommes illustres se sont accaparés le sexe féminin et ont véhiculé des mauvaises images dessus. et ça a participé au sexisme qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a appris des choses aberrantes à cause de gens tels que Saint-Augustin, Jean-Paul Sartre, Freud et j'en passe.
Alors oui, j'avais cru comprendre que du coup vous mettiez en scène des personnages historiques hein, qui ont tenu des discours sur le sexe féminin, qui sont présents dans la BD, et que ça balaye une grande, grande époque qui va donc de Saint-Augustin jusqu'à... Alors, qui sont les plus récents à avoir dit n'importe quoi sur le sexe féminin ?
On pourrait dire que c'est les années 70 avec John Money qui est à l'origine de ce qu'on appelle le genre binaire. On pourrait dire que c'est ça.
Donc ça va presque jusqu'à nos jours quand même, quoi.
Oui, en fait, suite à des impros qu'on a faites, il y a des moments qui ne sont pas des passages de la BD, qui sont des moments d'impro qu'on a gardés, qu'on a un peu réécrits et qu'on aime bien pour ça, parce que ça amène un peu du présent à ce qui est très écrit initialement.
Alors, moi je trouve ça très intéressant. Donc en fait, l'objectif de votre spectacle, c'est de déconstruire des représentations historiques, héritées, des pensées, des penseurs, de mouvements de pensée en tout cas dominants, portés principalement par des hommes, parce qu'on n'entend pas beaucoup de femmes parler du sexe féminin, et de mettre de la parole là-dessus et de laisser cette expression-là possible. Quelles sont les idées reçues, vous pouvez en donner une ou deux ou trois, que par exemple vous mettez en scène dans le spectacle, je ne sais pas, par exemple Saint-Augustin.
Saint-Augustin, il a défendu l'idée que, en fait, en gros, le péché originel venait donc d'Adam et Ève, et que au moment où ils ont péché, c'était globalement, selon lui, la faute d'Ève, et que par conséquent, la femme était pécheresse et sale, exactement, et représentait la tentation et l'impureté. Et quand on avance un peu dans l'histoire, on a d'autres choses aussi un peu aberrantes comme ça, notamment une des idées reçues qui est que l'orgasme féminin est beaucoup plus difficile à atteindre et moins important, quoi.
Moins puissant.
Moins puissant, moins central.
Et Saint-Augustin, il a véhiculé l'idée que le sexe, dans sa globalité, était mal, alors que beaucoup de personnes avant lui vénéraient la sexualité parce que c'était la source de la vie également.
Voilà, en gros, c'est devenu tabou à cause de Saint-Augustin, la sexualité, à partir du 4e siècle.
C'est-à-dire qu'à partir de lui, il y a eu toute cette mouvance aussi chrétienne, hein, je pense que c'est pas... voilà, mais effectivement. Et alors, Jean-Paul Sartre, si on pouvait en donner un autre, puisque vous avez dit son nom tout à l'heure, lui, est-ce qu'il y avait aussi Simone de Beauvoir dans sa vie par où il a péché, celui-là?
Il a péché. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il a véhiculé l'idée que le sexe féminin est seulement un trou et donc qu'il n'y a pas de partie externe. Et pour nous, en tant que femmes, ne pas nommer la vulve, c'est vraiment compliqué parce que on peut croire qu'on est difforme ou on peut croire plein d'autres choses si on ne sait pas que le sexe féminin a également des parties externes. Voilà.
Oui, parce qu'en fait, voilà, oui, le problème, c'est que comme c'est pas visible, ça n'existe pas, et on est forcément un truc avec quelque chose qui manque, hein, voilà, un truc en creux. C'est quand même, alors qu'on est quand même bien équipé, logiquement. Donc, dans votre spectacle, vous parlez vulve, vous déconstruisez ces représentations aussi sur la sexualité de la femme, le plaisir féminin, le plaisir tout court, et vous. Parlez, vous mettez de la parole pour montrer ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché et ce dont personne ne parle. En tout cas, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais c'est quand même assez récent et c'est beaucoup plus répandu chez les jeunes générations.
Chez les jeunes générations, oui, mais en même temps, ça reste extrêmement tabou. Nous, on le joue pas mal en lycée et c'est encore extrêmement tabou. Peut-être que nous, entre 20 et 30 ans, il y a quand même une parole qui s'est... globalement libérés. C'est vrai que quand on joue dans des établissements scolaires, on observe qu'il y a encore beaucoup de non-dits et que les personnes nous remercient vraiment de venir parler de ça.
Et alors vous, dans votre mise en scène, j'ai entendu là tout à l'heure, donc c'était la première représentation là, à 14h, on a entendu beaucoup les gens rire. Vous avez été bien applaudis. C'est un spectacle dont l'objectif est de faire rire ou dont l'objectif est de faire prendre conscience ou les deux?
Évidemment les deux, en réalité pour moi, mais dans tous les cas, comme on se base sur une BD, c'est vrai que la BD, elle comporte déjà en elle-même quelque chose de très drôle et en même temps des très politiques, dans la mesure où elle fait passer des messages assez clairs, elle donne la représentation de la vulve, etc., et du clitoris. Et donc vraiment, c'est les deux. Je crois beaucoup au fait que le rire, c'est un bon moyen, pont entre les gens et pour accéder aux autres personnes. Et que pour parler aux gens, quand on rigole, j'ai l'impression que le lien se fait mieux.
C'est aussi une bonne manière d'expliquer des choses dont on n'oserait pas parler, peut-être.
Oui, et en plus, vu que le rire, c'est quand même assez communicatif, quand on lit notre BD tout seul chez nous, il y a quand même quelque chose où on rigole, mais un peu tout seul. Et là, au moins, on peut ne pas se cacher de rire de ça parce qu'on est plein et que c'est totalement admis de rire dans ce contexte-là. Donc, c'est sympa.
Ça dédramatise un peu le sujet, ouais. Vous jouez beaucoup dans les lycées, dans les établissements scolaires ?
Oui, il me semble que pour l'instant, on a déjà fait entre 6 et 8 dates, je crois. Plutôt dans les lycées et une fois quand même dans un collège aussi, où globalement la réaction est quand même relativement différente entre collégiens et lycéens, ce qui est quand même assez normal. On joue à partir de la quatrième, et déjà entre quatrième et troisième, on sent une différence de réception. Mais a priori, là pour l'année prochaine, on est quand même booké sur un certain nombre de dates aussi. On va continuer à aller dans les lycées, à la rencontre des lycéens et aussi de collégiens.
Mais du coup, vous ménagez un échange avec le public, donc le bord de scène, c'est ça. C'est après le spectacle, un temps d'échange avec le public.
Oui, on fait un bord de scène systématiquement. À la fin du spectacle, on parle avec eux pendant 20 minutes des questions qu'ils ont à nous poser, de ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé aussi. Et ça, c'est hyper important pour nous. Là, c'est la première fois que, vu qu'on est pressé par le temps, par le festival, parce qu'il y a d'autres spectacles après, c'est la première fois qu'on fait le spectacle sans parler après. Voilà.
D'accord. Donc, on a un petit festivalier qui a assisté à votre spectacle. Bon, il est jeune, hein, il n'est pas encore au collège, mais je pense que... Est-ce que tu veux poser une question ?
Mais comment vous avez créé le groupe Il fait belle ?
Alors, nous tous, on s'est rencontrés dans une école de théâtre à Bordeaux, qui s'appelle l'École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine. Claire-Aurore, Danae et moi-même, Mathéo, on était dans l'école, et Rémi est le copain de Claire-Aurore. Donc, on s'est rencontrés il y a 4 ans. On a travaillé souvent ensemble dans l'école. Et justement, le spectacle, il est né dans cette école-là, il y a un peu plus d'un an. Et en sortant de l'école, quand on était tout fraîchement diplômé, on a eu envie de continuer le spectacle, de continuer à le jouer partout.
Oui, et on a eu le soutien du Théâtre National de Bordeaux, qui est qui nous produit, parce qu'on était dans l'école du théâtre. Et donc, quand on est sorti, vu qu'ils avaient bien aimé le spectacle, ils nous ont demandé de le reprendre, et nous, on était ravis de pouvoir le reprendre.
Et Claire-Aurore, qui est donc la metteuse en scène du spectacle, c'est elle qui a créé la compagnie. Voilà, en tant que comme chef de troupe.
Elle dit que c'est pas important, mais c'est bien quand même. En tout cas, un spectacle. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout public ? Peut-être que on peut prendre à chaque âge.
Ça dépend peut-être des parents en fait. Moi, je considère que qu'on peut, mais si on ne joue pas en dessous de la quatrième, c'est pour pas avoir les représailles des parents derrière qui viennent nous dire que on parle de sexualité trop tôt, etc. Moi, je pense qu'on peut pas parler de sexualité trop tôt, que c'est hyper tabou même la sexualité pour les enfants, etc. Enfin, de savoir, enfin, de pouvoir juste évoquer la chose, c'est quand même encore très tabou.
Oui. Alors que tous les enfants sont exposés à plein d'images, alors moi je trouve ça bien d'en parler et je me dis que ce serait bien de faire des représentations pour les parents aussi, pour apprendre à parler de sexualité avec ses enfants, parce que si c'est bien un endroit où on peut le faire en toute confiance, c'est cet endroit-là, je pense.
Ce qui est bien, c'est qu'on a des salles assez éclectiques. On a eu vraiment tous les âges. Donc évidemment, dans les collèges et les lycées, c'est très ciblé. Mais le spectacle a commencé à être vu tout d'abord par vraiment des ados jusqu'à des personnes de 80 ans. Donc, et même là, on le voit à l'Arbre Bavard, il y avait vraiment différentes générations dans le public.
Votre actualité pour l'été, pour la suite et des créations peut-être à venir ?
Pour l'actualité, on joue donc là à l'Arbre Bavard, puis après dans la région bordelaise pendant le mois d'août, encore en septembre. Après, c'est plus des établissements scolaires, mais il y a un peu de tout. Et si vous voulez savoir nos prochaines dates, nos prochaines créations, etc., vous pouvez nous suivre sur Instagram, Origine du Monde 2023.
C'est un peu pour toutes les générations, ce sujet. Ben, merci d'être venu nous parler de la vulve un petit peu, un sujet qu'on aime bien chez nous à l'Autre Radio.
Something great is coming on. There's a party in my pussy. Everybody, come on. There's a party in my pussy. Something great is coming on. There's a party in my pussy. Everybody, come on. There's a party in my pussy. Something great is coming on. There's a party in my pussy. Everybody, come on. There's a party in my pussy. Something great is coming on. There's a party in my pussy. Everybody, come on. My pussy, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy, pussy. There's a party in my pussy. Something great is coming on.
My pussy, my pussy, my pussy, my pussy.
Et maintenant, un chapitre sur
l'orgasme.
C'est Vicky, Bianca, Pac-Man, c'est la folie. Kaya, t'es tout beau, quand t'as pas capté, on va trop vite. Qui dis-moi qui nous peut la collaber, ah t'es solide. On a le flow, l'esthétique, l'attitude, le combo est un police. Ramenez sous, j'investis tout.
Je suis la baronne, j'ai crié ton daron, j'ai kiffé ta daronne, bitch. Tu l'attrapes maman, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop de flots dans ma tête, on est 10. Crois pas qu'on est pisse, j'ai cramé ton fils. Bitch, bitch, bitch. Mon dieu, je suis condamné à mourir riche.
Ici, c'est la jupe, ça flex. De Brésil ou à Paris.
T'as la rage comme mon ex.
Ici, c'est la jupe, ça flex.
De Paris à Libreville.
Ici,
on compte les fesses. Vie, on envoie des flammes, on est pyro.
flow. Comme chez qui n'a rien qu'on brûle tout. Bars, on en a des kilos. Mais bon, à skip, ça fait pas tout. Sous-côté, mais je suis dans le top 10. J'ai ce que je vaux, j'ai les capacités. Font ami, ami sur le Netflix. Moi quand il faut te citer, j'ai pas besoin qu'ils me plébiscine. J'ai qui et qui, donc qui m'aime me suivent. Tu me verras jamais dans des baisers. Toujours en team, toujours en équipe. Derrière mon dos, sont là comme le dossard. Je dois toujours en faire plus. On fout la merde comme paradis sur Mars. Comme ça qu'on exécute. Je suis dans le rap quand je veux, je flex. Passe partout comme le 4-4. La DT haute, pas de complexe. Vos rappeurs dans le 4-4 sont mangés. J'arrive avec la fougue, le flow, ils sont en danger. L'avenir sera radieux si tout se passe bien. On passe en radio. Je suis dans la cuisine, je whip. J'ai le feu et la technique, oh, ah.
That's right.
Je rebondis sur le kick. Quand on déboule en équipe, je les vois tous qui paniquent, oh, ah. Dans tes yeux, je vois que tu flippes.
Ah, oh. Ici, ça drip, ça flex.
Ah, oh.
Double zéro à Paris.
Ah, oh.
T'as la rage comme mon ex.
Ah, oh. Boum, boum, boum.
Ah, oh. Ici, ça drip, ça flex.
Ah, oh. De Paris à Libreville.
Ah, oh.
Ici, on compte les fesses.
Ah, oh. Boum, boum, boum. Bye.
Ça fait dans mon regard. Séché mes larmes, et au bail, il va y faire des noises, mon
lait, ici ça drip, ça flex.
Ah, oh.
Double zéro à Paris.
Ah, oh.
T'as la rage comme mon ex.
Ah, oh. Oh, oh, oh.
Ah, oh. Ici ça drip, ça flex.
Ah, oh. De Paris à Libreville.
Ah, oh.
Ici on compte les fesses.
Ah, oh. Oh, 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 oh.
Ouais, puis je trouve que du coup, dans la programmation, là je viens d'interviewer deux compagnies.
Ouais.
Et donc, on a des thématiques qui sont vraiment très actuelles et qui bousculent un peu les représentations. Et je trouve que là, cette génération de jeunes gens entre 20 et 30 ans, ils font du bien.
Ouais, complètement. Ils nous bousculent. Et moi, j'ai aussi deux enfants qui ont ces âges-là. Et ouais, il y a un moment, c'est eux qui nous éduquent de toute façon.
Alors là, on est avec la compagnie
Braga Cadabra.
Qu'est-ce que ça veut dire, Braga Cadabra?
En fait, c'est un jeu de mots, de abracadabra, comme les magiciens, mais en fait, on ne fait pas du tout de magie. Mais on a utilisé les mots abracadabra et Braga, ça veut dire slip, en fait. Et comme on est deux femmes, on a joué avec ça, Braga, slip, cadabra, en fait.
Et du coup, si c'est deux femmes, c'est plutôt culotte.
Alors, c'est culotte. Braga, c'est seulement pour femme en espagnol.
Alors, c'est culotte.
Alors, le spectacle circassien, c'est du cirque. J'ai lu sur le descriptif acrodance, théâtre absurde et physique. Ça s'appelle Caída Libre para Personas con Vertigo, qui veut dire.
Chute libre pour personnes qui souffrent de vertige.
Ouais, c'est ça. Alors voilà, donc c'est un duo. Comment est-ce que est né ce projet? Est-ce que toutes les deux vous avez le vertige?
En fait, on avait commencé à travailler la chute parce que on voulait travailler ça, mais comme un mouvement. Comme un mouvement physique, corporel. Et après ça, on a trouvé que l'histoire de la chute nous a porté à parler de la relation de deux personnes et comment se relationner l'une et l'autre quand une tombe, comment l'autre est. Réaction.
Ouais. Quand une des personnes tombe dans un duo, oui. Comment l'autre réagit? Quelle est la relation, le nouvel équilibre qui se crée, c'est ça?
Oui, un petit peu. C'est pas qu'on parle spécifiquement de ça, on ne montre pas littéralement, en fait.
En fait, parce que c'est moi, en regardant le descriptif, je me disais, ah, en fait, c'est une histoire de chute. Au sens propre et au sens figuré, c'est une histoire d'équilibre au sens propre et au sens figuré, parce qu'il y a l'équilibre qu'on a chacun. On peut être équilibré ou déséquilibré. Il peut y avoir un équilibre dans la relation ou un déséquilibre. Et aussi, c'est une histoire de gravité, la gravidad, parce que la chute, c'est une histoire de gravité, au sens propre et au sens figuré, parce que la gravité, c'est à la fois le fait que ce soit lourd et le fait que ce soit sérieux. Sens propre et sens figuré, c'est... sens propre, c'est... Bah, c'est lourd, voilà, el sentido metaforico y el sentido... Claro.
C'est drôle parce que c'est comme si tu aurais lu les dossiers en fait, parce que on parle exactement de ça. C'est, on parle de la chute physique. Ben, on chute, on tombe dans tous les spectacles. Mais comme Lola elle parlait avant, on parle de tomber dans une relation aussi, d'une relation humaine, n'importe quelle relation. Et alors on parle de doux. Et aussi, surtout, tu as parlé de l'équilibre, et c'est comment... Oui, si tout est déséquilibre, en fait, tu vas tomber, mais s'il y a deux personnes qui tombent et qui se déséquilibrent, mais se rattrapent au milieu du chemin, en fait, c'est comment on chute en pause, c'est comment il y a des questions qui apparaissent dans le spectacle.
En vrai... L'acrobacie, c'est una pérdida d'équilibre, une perte d'équilibre constante. Comment se crée un nouveau équilibre quand une personne de las deux se cae?
Claro.
Ça, c'est la question.
La question de l'acrobacie et la question de la vie.
Ça, c'est la question de notre
projet
et de la vie aussi.
C'est une question, il n'y a pas de réponse.
Ouais, je pense qu'il
y a beaucoup de réponses.
Oui.
Non, il n'y a pas qu'une seule réponse.
Oui. Et je pense qu'on est en équilibre et en déséquilibre constamment dans tous les spectacles. En fait, on n'arrive jamais à l'équilibre et on n'arrive jamais au déséquilibre puisque ça est là. Sinon, comment? C'est là, tout le temps en fait. Oui, c'est un peu ouvert la réponse, mais la question aussi.
Oui, non, mais pas de problème. Vous êtes rencontrés autour de ce projet et du coup, autour en tout cas du cirque, enfin des acrobaties. Mais du coup, ce projet est né autour de l'idée de la chute. Là, vous êtes sur un spectacle qui tourne.
Ça commence à tourner, mais en fait, c'est encore un work in progress. On est encore en création.
Un travail.
Ouais.
Vous le modifiez, vous le faites évoluer. C'est un spectacle que vous jouez en salle et en extérieur. Là, comment vous avez connu l'arbre bavard et envoyé le dossier ici?
On avait reçu une mail de notre école de cirque avec l'audition, la proposition, l'annonce de festival. Et on avait envoyé les dossiers et tout, et
c'est bon.
C'est bon, oui.
Bah, et après, moi j'habite avec Lisa, c'est ma coloc, une amie à nous aussi. Et elle nous parle que sa cousine, Alisma, elle avait un festival vers la France et ils étaient en train de chercher de ce spectacle et tout. Et elle avait dit, ah oui, vous pouvez envoyer les dossiers. Et c'est comme, oui, allez, on va le faire. Et après, on a regardé qu'on l'avait déjà fait. Alors, c'était comme en coïncidence.
C'était le même festival.
Oui, le même festival. Et après, on a été choisis.
Oui, il y a d'autres compagnies, d'autres pays où vous êtes les seuls.
Je pense qu'il y a une compagnie de pas de France par an. Et je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a une compagnie. L'année dernière, il paraît que c'était d'Allemagne. Et là, c'était nous.
Que
pour tous les trucs de transport, mm-hmm. et les trucs de claro. économiser pour les trains et l'avion, et ils ne prennent pas de compagnie de loin, mm-hmm. en fait. C'est pour ça qu'il y a un par un.
Dans votre spectacle, il y a beaucoup d'acrobaties, mais il y a aussi du texte. de quoi on parle quand on fait des acrobaties. Qu'est-ce que vous vous dites pendant le spectacle?
On dialogue, on parle de ce qu'on sent.
On parle assez littéralement de ce qui passe, mais que ça peut se lire d'une autre manière aussi. Et c'était tout un défi de le passer en français, puisqu'en fait, en espagnol, on avait pensé qu'on ne parlait pas trop. Mais après, quand on a commencé à le faire en français, c'est comme, ah bon, quand même, et il faut se faire comprendre. Et il faut, on avait des blagues aussi, plein de blagues en espagnol, que si tout change, et ça ne marche pas pareil.
En vrai, on parle de la chute, comment des trucs profonds, mm-hmm. mais comment littéral, mais pas littéral, comment...
En fait, il y a deux messages. Il y a ce que vous dites en parlant de vos acrobaties, mm-hmm. et ce qu'on peut interpréter si on réfléchit, qu'est-ce que c'est être en duo, qu'est-ce que c'est être à deux, qu'est-ce que c'est être en relation, qu'est-ce que c'est avoir le vertige. Qu'est-ce que c'est tomber? C'est ça?
Et avec les corps aussi, il y a des moments où on parle et on fait des trucs avec les corps que c'est complètement le contraire ou exactement ça qu'on parle et on joue avec ça. Et...
Est-ce que le public participe un peu?
Je ne sais pas s'il participe, mais il est parti. Bah, il est avec nous. Je pense que on essaye de qu'on soit tous dans la même atmosphère. On va pas parler avec les gens, mais
on traspasse la ligne du public, mais on ne les fait pas répondre.
Vous les invitez pas à parler ou à participer, mais par contre, vous vous déambulez dans le public.
Oui. Mm. Si, c'est ça.
Est-ce que c'est un spectacle drôle où les gens rient?
Oui, je pense que c'est pas le but. C'est pas un spectacle des clowns, pas du tout, mais ça arrive à ça. Il y a des petits moments que, oui, c'est pas, les gens ne vont pas pleurer de rire, tu vois, mais...
Mais il dépend beaucoup aussi de les moments et de l'espace. Il y a fois que le public...
Il y a beaucoup rigolé.
Oui. Il y a autre fois que...
Ça dépend peut-être l'espace dans lequel vous jouez, la proximité du public, s'ils sont plus près ou plus loin.
S'ils entendent.
S'ils entendent bien.
Oui, on l'avait fait dans une salle et ils comprenaient tout. Alors, si.
On était avec nous, ils rigolaient... Des trucs qu'on ne savait même pas qu'ils allaient rigoler.
Oui, mais peut-être parce que eux, quand ils entendent ça, ça leur fait penser à des choses de leur vie et que du coup, ils ont ce regard amusé, étonné. Ça fait un décalage. C'est ça aussi que permet le cirque, ce décalage. C'est comme une petite philosophie de la vie, mais présentée de manière très légère. En tout cas, quand je regarde un peu votre spectacle, j'ai vu des extraits. Et juste les mots qui sont utilisés pour en parler dans la présentation, pour moi, c'est comme une métaphore, bah oui, de la vie à deux. C'est, voilà, on est deux. Quand il y en a un qui va moins bien, et ben, ça entraîne l'autre, comment se recréer les équilibres. Parfois, on dit ça va, tout va bien, et puis en fait, notre corps dit le contraire. Et en fait, c'est une très belle manière, je pense, de parler des relations humaines et de la manière d'être en relation. Qui est quelque chose parfois assez acrobatique.
Si, si. Bah, et c'est cool, là, les fois qu'on a joué et on parle avec les gens, parce que par les moments, c'est un travail de les deux. On a tout créé, nous, on n'a pas encore reçu d'aide extérieure. Alors on parle avec les gens qui ont vu le spectacle et c'est cool parce qu'on a plein de différentes manières différentes de voir. Et notre relation, ça qu'on veut dire au public, et c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être font plus attention à ce qu'on dit avec la parole, des gens qui regardent plus avec les corps, des gens qui font des combinaisons. Et c'est cool de voir qu'est-ce que ça dit à les gens. C'est cool d'écouter ça.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on joue à 16h15 et à 18h20. Mm-hmm. Et demain, 16h15, 19h20.
Non, à l'envers.
Bon. Ça, mais à l'envers.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu parler au micro de l'autre radio.
Our guardian star lost all his glow the day that I lost you. He lost all his glitter the day you said no, and his silver turned to blue. Like him, I am doubtful that your love is true. If you decide to call on me, ask for Mr. Blue. I'm Mr. Blue. When you say you love me,
Mr. Blue,
then prove it by going out on the sly, proving your love isn't true. I'm Mr. Blue. When you say you're sorry,
Mr. Blue,
then turn around, heading for the lights of town, hurting me through and through.
Call me Mr. Blue.
I stay at home at night. While you paint the town,
Mr. Blue,
a bright red to turn it upside down, I'm painting it too, but I'm painting it blue. Call me Mr. Blue.
Et ce qu'on a été, enfin voilà, moi je pars du principe que chaque génération a ses combats, et forcément elle pousse toujours plus loin la réflexion, et puis ça va toujours plus loin dans la tolérance, dans le respect de tous, enfin quand même.
Ouais. C'est beaucoup des thématiques sur la tolérance de qui on est et de l'identité, que chacun puisse choisir son identité. On est quand même dans, il y a beaucoup de liberté dans les propos. Ça fait du bien. On est beaucoup sur des thématiques de genre, sur des thématiques de relations, avec pas de discours tranché, moralisateur, mais vraiment des choses très ouvertes.
Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est normal, ça avance, hein.